RFI 19h30 ici à Paris, l'heure est au débat.
Le débat du jour. Romain Ozoui.
Aux quatre coins du monde, c'est le mois des fiertés LGBTI+ actuellement. En France, le grand moment, ce sera ce samedi, la marche des fiertés qui traversera Paris. Les personnes LGBTI+, lesbiennes, gays, bi, trans, intersexes, dont les droits progressent dans de nombreux pays avec de plus en plus la reconnaissance du mariage entre personnes de même sexe. Le dernier exemple en date, c'est ce mois-ci, la Thaïlande. Mais dans le même temps, ces droits régressent dans d'autres États où l'homosexualité est criminalisée. D'où notre question ce soir, alors que les sociétés évoluent, y a-t-il un recul des droits des personnes LGBTI+ ? Comment provoquer un sursaut ? Et face à cette situation qui sont opposées, est-ce qu'un jour, nous parviendrons à une homogénéité mondiale ? Soyez les bienvenus dans le débat du jour. Et pour répondre à toutes ces questions, nos trois invités à mes côtés en studio ce soir, Flora Bolter, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes co-directrice de l'Observatoire LGBTI+, à la Fondation Jean Jaurès. Face Absolument. À vous, Julia Torlé, bonsoir.
Bonsoir.
Présidente, porte-parole de l'organisation SOS Homophobie. Et à côté de vous, Anaïs Perrin-Prével, bonsoir.
Bonsoir.
Directrice de l'association Outrance. Alors pour commencer, j'aurais fait un point situation parce que la situation inquiète les associations. Je me tourne vers vous, Julia Torlé, car SOS Homophobie a, le mois dernier, publié son dernier rapport. Il en ressort une augmentation des violences à l'encontre des personnes LGBTI+. Est-ce que vous pouvez le détailler, ce rapport ?
Oui, alors effectivement, il y a une augmentation qui est assez globale. Nous, chez SOS Homophobie et les autres associations font de même, on s'attache toujours plutôt au contenu et à essayer d'analyser les tendances plutôt qu'à s'attarder sur les chiffres, parce que oui, les chiffres montrent cette augmentation. Néanmoins, ce qui nous inquiète davantage, ce sont les visages que peuvent prendre ces augmentations. Il y a notamment sur la dernière année passée une augmentation des actes transphobes qu'on a noté. Nous, il faut savoir que le rapport de SOS Homophobie, on le construit à partir des témoignages qu'on reçoit sur une ligne d'écoute qui permet aux victimes ou aux témoins d'agressions LGBTI-phobes de contacter l'association, de faire part de ce qu'elles ont vécu, ce qui peut aussi leur permettre d'obtenir un soutien juridique de la part de l'association. Et à partir de ces témoignages reçus sur la ligne d'écoute, on construit ce rapport. Or, ces témoignages...
Oui, il y a un décalage, si on ne peut pas s'arrêter qu'au nombre de plaintes, c'est ça ?
Voilà, évidemment. Exactement, parce que nous, on publie chez SOS Homophobie ce rapport depuis 1997, donc il commence à avoir une certaine ancienneté, ce rapport annuel. Désormais, depuis quelques années, le gouvernement français publie aussi des chiffres. Ça, c'est relativement nouveau, parce qu'avant, il n'y avait que l'association qui publiait des chiffres. Mais effectivement, les chiffres, quand on les croise, ils ne sont pas forcément les mêmes, ils n'ont pas les mêmes sources, donc ils ne peuvent pas être strictement identique. Par contre, les tendances sont les mêmes. Donc la transphobie, je le disais, c'est une tendance qui est en hausse. Ça, c'est une certitude. La question de la haine en ligne aussi, c'est une hausse qu'on constate. Et puis, il y a des constantes à côté de ces hausses-là. Et par exemple, les agressions physiques sur des hommes gays ou présumés gays, elles sont toujours là. Elles sont toujours constantes.
Elles sont
et dans l'actualité...
En hausse
Non, enfin, c'est plus une constante qu'une hausse pour le coup, mais l'actualité nous montre bien que ces agressions, en fait, elles sont toujours là. Là, on les voit particulièrement dans le paysage médiatique en ce moment, parce qu'effectivement, on parle des questions LGBTI+, on parle de la menace qui pèse sur les personnes LGBTI+, donc on leur donne aujourd'hui une plus grande visibilité, mais la vérité, c'est que ces agressions, ces violences-là, elles sont constamment présente.
Donc, des agressions, en tout cas, qui ne baissent pas. Flora Bolter, co-directrice d'Observatoire LGBT+, à la Fondation Jean Jaurès. Je reprends le constat de Julia Torlé, la transphobie qui est en hausse, la haine en ligne qui est en hausse.
Ouais.
En écho, je vais citer l'Agence européenne des droits fondamentaux, qui est un organisme qui dépend de l'UE, qui a publié le mois dernier aussi une étude et qui évoque une violence à l'égard des LGBT au plus haut en Europe. Comment on peut expliquer cela ?
Alors, il y a énormément de facteurs. Alors, déjà, il y a un facteur qui est lié à la mesure, parce qu'avant, il y a aussi une réalité qui est que pendant longtemps, on n'a pas mesuré au niveau des États la réalité des violences LGBT-phobes. Et c'est que depuis 2016 qu'on a les chiffres, par exemple, du gouvernement français, qui sont des chiffres consolidés, des données agrégées. Donc, on ne peut pas faire une analyse très fine de ces données-là, même si le service statistique essaye de faire ce qu'il peut. Et donc, on a quelques données qui commencent à arriver. Donc, ça, on voit des évolutions. Et du coup, on commente beaucoup ces évolutions.
On peut parler d'effet loupe, sans le côté péjoratif du terme.
Il y a un effet qui est lié au fait qu'il y a une meilleure entente, il y a une meilleure écoute. Et qui fait qu'éventuellement, on en parle plus aussi dans les médias. Mais il y a aussi un phénomène qu'on peut saisir quand on utilise le même outil, comme on peut le faire avec, avec le rapport de SOS Homophobie, et avec le SSMSI aussi, avec les données qu'on a depuis 2016. On peut voir des évolutions très grandes d'une année sur l'autre. Ça a été le cas en 2013 avec le débat sur le mariage pour tous. Donc on voit qu'il y a des phénomènes qui accentuent une libération de la parole. Au niveau européen, l'étude que vous avez citée, elle est très intéressante, celle de l'Agence européenne des droits fondamentaux, ouais. Parce qu'elle, en fait, elle se répète. C'est une vague d'études, des questions qu'on a posées à l'identique en 2019 et qu'on avait déjà posées auparavant en 2014. Et pour le coup, il y a quelque chose de très intéressant à voir ces évolutions, ce qui permet à l'Agence européenne de dire « attention, il y a un problème », c'est qu'effectivement, il y a une augmentation. Et donc, avec ce même outil, on voit cette augmentation très nettement. Ce qui s'est passé dans les dernières années, vous le disiez en intro, et qui, à mon avis, peut en large mesure expliquer une partie de cet effet-là, c'est la polarisation en fait des États, la polarisation politique autour de jamais on a eu autant de droits comme personne LGBTI+ de par le monde, mais jamais aussi, du coup, il y a eu autant de débats politiques de long terme sur la présence des personnes LGBTI+, avec des paroles aussi émises par des responsables politiques, des responsables religieux divers et variés, qui émettent des avis très négatifs et qui sanctionnent d'une certaine manière une forme de refus des valeurs des droits humains.
Et comment vous expliquez ce paradoxe ?
C'est le paradoxe de la visibilité et c'est le paradoxe du fait d'être... On est obligé de composer avec nous, alors que pendant longtemps, on n'a pas composé avec nous. Et du coup, il y a cette espèce de polarisation et de politisation aussi négative des enjeux des personnes LGBT, parce qu'il y a aussi un mouvement opposé aux droits humains qui utilise les personnes LGBTI+, comme pierre de touche de ce discours-là et de leur rejet des droits humains.
Anaïs Perrin-Prével, est-ce que, entre guillemets, c'est le revers de la médaille ? La légalisation, la légitimité, ça crée la visibilité ?
C'est-à-dire qu'on a...
Et donc les conséquences néfastes que crée la visibilité ?
On a des vagues, en fait, qui se font par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il y a une vague où personne n'en parle. Quand on commence à en parler, on se dit, bah tiens, c'est plutôt amusant. Et il y a des vagues qui avancent en disant, bah pourquoi ne pas soutenir les personnes en question ? Et après, on a le backlash, c'est-à-dire le retour en arrière avec les personnes qui, jusqu'à présent, ne s'étaient pas trop posé la question, qui se disent, ah mais non, ça, j'en veux pas, et qui se réveillent à ce moment-là et qui font de la réaction au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'ils vont réagir au fait qu'on puisse avoir des droits qui deviennent de plus en plus visibles, reconnus et acceptés. Et c'est des choses qu'on voit depuis quelques temps sur les questions d'orientation sexuelle, parce que le travail a été long et avancé. Il y a une sorte d'accélération et une reprise à peu près des mêmes mécanismes sur les dernières années sur les enjeux de transidentité, parce que c'est les enjeux dont on parlait très, très, très peu avant, et qui, il n'y a pas longtemps, on a une vague. Quand je dis il n'y a pas longtemps, c'est fin des années 2010, un petit peu partout dans le monde. On a été jusqu'à la dépsychiatrisation votée en mai 2019 par l'OMS. C'était 30 ans avant pour l'homosexualité. Hein. Dépsychiatrisation de la transidentité, c'est entré en vigueur à l'OMS au 1er janvier 2022. C'était 1er janvier 1993 sur l'homosexualité. Donc, on voit le gap qu'il y a entre les deux. Et on a eu tout ce mouvement-là qui s'est fait assez naturellement dans la fin des années 2010, pardon, un petit peu partout. En France, on a eu la loi de 2016. On a eu en 2010 déjà des enjeux de dépsychiatrisation sur les parcours de transition. Et puis, cet élément qui est très positif et qui fait qu'il y a plein de droits qui commencent à s'ouvrir de tous les côtés et de la reconnaissance, eh bien, on a un retour en arrière avec des groupes qui se constituent en réaction et qui du côté de Poutine, du côté des États trumpistes aux États-Unis, qui en Europe aussi, sur les États conservateurs, construisent sur des éléments strictement idéologiques, un refus et un rejet, à certains endroits, des enjeux qui sont liés à l'orientation sexuelle, et là, fortement en réaction aux enjeux qui sont liés à l'identité de genre, de dire « on ne reconnaît pas l'identité de genre, ça a été trop loin pour nous, et on doit revenir en arrière sur ce point-là ».
Juste pour revenir sur ce que vient de dire Anaïs, je pense que c'est sur la panique morale qui a été montée depuis la fin des années 2010 sur les questions de transidentité, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait documenter en termes d'études, d'échanges de militants, de réseaux qui ont fait passer des argumentaires tout faits, etc. Il y a vraiment une construction qui est assez délibérée de ces paniques morales et qui sont armées en fait, alors que c'est c'était plus fouillis, un peu dans tous les sens. C'était lié à un mal-être quelques années plus tôt autour du PAX et ce genre de choses. Mais là, on est vraiment sur des mouvements qui savent très bien ce qu'ils font et qui sont très, très, très politiques et très, malheureusement très efficaces.
Anaïs Perrin, Prével d'Amour, la transphobie, c'est vraiment le sujet du moment. C'est le mot d'ordre de la marche des fiertés ce samedi à Paris.
En fait, l'évolution des droits et la visibilité des personnes trans est un enjeu essentiel sur les dernières années, avec le mouvement dont j'ai parlé. Et on se retrouve avec, quand on parle de plaidoyer et qu'on essaie de travailler avec toutes les associations LGBTQIA+, sur les enjeux LGBTQIA+, aujourd'hui, là où il y a le plus de droits à aller chercher, c'est sur les transidentités. Mmh. C'est sur l'identité de genre, la reconnaissance de la diversité du genre, l'accès à la santé, l'accès à la reconnaissance de l'état civil, même si certaines personnes pensent que c'est ubuesque. On est sur quelque chose où on a réellement matière à droit dans un pays comme la France, où on peut considérer que, par exemple, le droit au mariage a... entre guillemets banalisé légalement, même si la haine est malheureusement toujours au même niveau, voire plus présente que jamais. Mais on a un peu l'impression qu'il n'y a plus d'enjeux sur les enjeux d'homosexualité et qu'il y en a sur les enjeux de transidentité. Et donc la réaction dont on parlait, elle est d'autant plus forte sur les questions de transidentité. Ouais. Et aujourd'hui, les attaques qui se font sur la transidentité avec des éléments extrêmement large parce qu'il y a toute la diversité du genre qui se fait dessus et aujourd'hui on a des attaques directes sur toute personne pour qui l'expression de genre ne sera pas strictement masculine, strictement féminine, où on pourra penser que la personne est une personne trans ou que la personne est efféminée, etc. etc.
Et Flora Bolter a évoqué évidemment le contexte politique et il y a évidemment cette sortie d'Emmanuel Macron qui a dit que en évoquant le programme du Nouveau Front Populaire, il y avait des choses complètement, je cite, ubuesques, comme par exemple d'aller changer de sexe en mairie. Aujourd'hui, on rappelle qu'il faut une décision de justice en France pour y parvenir. Julie, attendez rapidement parce que je vois que vous levez la main. Et après, je vais vous interroger.
Non, je voulais juste rebondir sur le propos d'Anaïs, sur le fait qu'effectivement la transphobie et les questions de transidentité étaient au cœur de la société aujourd'hui. C'est le cas, mais il faut quand même rappeler que c'est absolument cohérent dans un contexte général qui, de toute façon, est un contexte d'interrogation, de réflexion, de conceptualisation intellectuelle sur la question beaucoup plus large du genre. Oui. Et ça, il faut quand même l'avoir en tête. C'est-à-dire que si les transidentités aujourd'hui sont particulièrement insupportables pour certaines personnes, c'est parce qu'en fait elles viennent complètement ébranler la question de la polarisation des genres. Et ça, de toute façon, c'est dans la continuité des gender studies, c'est-à-dire du travail universitaire qui a été mené sur la question du genre, des recherches féministes. Ouais. Et ça, de toute façon, c'est quelque chose qui est en déconstruction et reconstruction depuis des décennies. Et bien sûr. Mmh. Et c'est pour ça aussi qu'il y a une telle difficulté pour certaines personnes à entendre une quelconque réflexion sur les transidentités, c'est parce que ça remet complètement en question un socle qui a été fondamental pendant des siècles.
Flora Bolter disait que finalement, les LGBTI+, n'avaient jamais eu autant de droits. Est-ce que vous êtes d'accord? Parce que, alors je citais par exemple la reconnaissance du mariage entre personnes de même sexe qui progresse dans 15 des 27 pays de l'UE. Ce mois-ci, je l'ai dit, la Thaïlande, premier pays d'Asie du Sud-Est, à prendre cette décision. Mais en même temps... on peut citer la Jordanie, le Kyrgyzstan et l'Ouganda qui récemment ont mis en œuvre des dispositions contre, je cite, la promotion de l'homosexualité. Est-ce qu'on peut vraiment dire que les droits en faveur des personnes LGBTI+ continuent de progresser?
Ce n'est pas la même question, en fait. C'est-à-dire que la première question, est-ce que les personnes LGBTI+, n'ont jamais eu autant de droits que maintenant? La réponse est oui, effectivement. On est à un moment où il n'y a jamais eu autant de droits qu'aujourd'hui.
Mais ça, c'est une vérité. Ailleurs.
Par contre, la deuxième question n'est pas la même. Est-ce que vraiment les droits des personnes LGBTI sont en progrès? Pas totalement, parce que oui, effectivement, il y a plus de droits qu'il n'y en a eu par le passé. En revanche, on voit bien à chaque avancée que ce sont des droits qui sont menacés, que chaque avancée ne se fait pas dans une espèce de fluidité qui consisterait à se dire donnons davantage de droits aux humains, parce qu'après tout, les humains sont bien les mêmes partout dans le monde. Non, pas du tout. C'est pas comme ça que ça se passe. Chaque droit accordé aux personnes LGBTI+, c'est un droit qui est arraché et qui est souvent arraché dans la souffrance parce qu'il y a une opposition qui est d'une violence absolument extrême. Donc, est-ce que vraiment les droits sont en progrès? Je n'en suis pas sûre.
Et surtout, il y a un deux poids, deux mesures, parce qu'on a dit reconnaissance du mariage pour tous dans de nombreux pays européens, l'Europe globalement à la pointe sur ces questions-là. Et il demeure 62 États membres des Nations Unies qui criminalisent les relations consensuelles entre personnes de même sexe. On peut parler de l'Ouganda, où il y a eu cette loi à la fin mai 2023. On a beaucoup d'auditeurs ougandais. Cette loi votée à l'unanimité, moins une voix, qui prévoit la peine de mort pour des cas qualifiés d'homosexualité aggravée. Oui. Flora Bolter.
Oui, parce que en fait, c'est un peu le but de cette tension, c'est qu'effectivement, on n'a jamais eu autant de droits, mais les droits sont fragiles et se sont déconstruits. Et il n'est jamais exclu qu'on revienne dessus. Ça, c'est une autre réalité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une marche inéluctable vers le progrès des droits humains, etc. C'est quelque chose qui doit s'obtenir. Et si jamais, et il peut tout à fait y avoir une majorité pour remettre en question tous ces droits, y compris dans les pays où les droits sont assez avancés. Et pour le coup, il y a un jeu politique qui est là en jeu. Et ce que vous avez, les exemples que vous avez cités, notamment l'Ouganda, sont des cas où très clairement, il y a la construction de toute une vision, l'affirmation en fait d'une identité politique qui se fait au détriment des personnes LGBTI+, avec vraiment cette notion que, ah ben non, mais nous, on va affirmer très clairement que pour nous, c'est non, par opposition à tous ces pays où c'est oui. Et donc, il y a l'affirmation à la fois d'une identité politique, d'une revendication aussi, quelque part, de culture, de valeurs locales. Et du coup, par le biais des politiques et par le biais de ce genre de manœuvre, on n'est jamais à l'abri qu'effectivement, ça puisse revenir, y compris dans certains pays.
Mais en tant qu'association, alors je me tourne plutôt vers Julia Torley ou Anaïs Perrin-Prevel, quelle action vous pouvez avoir envers ces pays-là où l'homosexualité est le plus durement réprimée et est-ce que c'est le premier de vos combats? Parce que là, on parle d'une situation française qui est quand même bien différente.
Oui, alors si la question c'est est-ce que l'action internationale est notre premier combat, ça dépend des associations. Par exemple, chez nous, SOS Homophobie, on est une association française, donc effectivement, on a une action sur le territoire français, ce qui ne signifie pas qu'on ne travaille que sur le territoire français, on travaille en relation aussi avec des associations étrangères, notamment européennes.
Ce que je veux dire, c'est est-ce que pour une association de lutte contre l'homophobie, la priorité, c'est pas de faire évoluer les mentalités dans ces pays où l'homosexualité est criminalisée?
Ça en fait partie. Alors après, nous, on a le public qui est un public français, mais effectivement, sur la question est-ce que ça passe par l'évolution des mentalités? Oui, évidemment. C'est-à-dire que ce sont deux axes très différents, que le travail législatif d'une part et le travail des mentalités d'autre part. Ce sont deux publics différents avec deux méthodes différentes. Donc, ce sont deux choses très différentes. Mais bien sûr que ça passe par le travail des mentalités. Après, voilà, là, nous représentons des associations qui sont plutôt des associations françaises qui travaillent sur le territoire français. Mais on est évidemment très attentive en tant qu'association à ce qui se passe ailleurs, parce qu'on sait pertinemment que ce qui se passe ailleurs peut être le reflet de ce qui peut se passer en France. Donc c'est pour ça qu'on reste extrêmement attentif à ça.
Et la
visibilité potentiellement des combats que l'on peut avoir, des revendications qu'on peut avoir, qu'on peut porter, de la façon dont on voit les choses, dont on les présente aussi, c'est des choses qui maintenant sont visibles. On est dans une société connectée où des gens dans plein de pays peuvent voir ce qui peut se passer dans d'autres pays. Si on reste sur la francophonie, assez facilement, en recherchant, on peut retrouver sur Internet des informations, on peut croiser des choses et on peut avoir du coup des gens qui peuvent être sensibilisés sur l'existence de choses, de pratiques, de façons de s'organiser en société qui peuvent être différentes. Il faut aussi repositionner, encore une fois, tous ces éléments-là sur des aspects idéologiques assez forts. Il y a des vraies campagnes idéologiques qui sont lancées, qui sont organisées, mais qui ne sont pas simplement ultra récentes. C'est des choses qui existent depuis très longtemps. Il faut comprendre que c'est plutôt l'Occident qui a importé l'homophobie et la transphobie.
Oui, complètement. Tout à fait.
À l'origine, dans les pays dans lesquels on a importé via les pays occidentaux avec la colonisation le rejet, c'était les pays qui acceptaient la diversité du genre, et on a encore plein de cultures qui intègrent la diversité du genre avec des variations extrêmement fortes et qui peuvent être extrêmement positives. Donc on a plutôt eu un retour en arrière avec une normalisation sociétale liée à la colonie qui a ramené le côté très homme-femme hétéronormé et cisnormé.
Ça ne veut pas dire que l'histoire ne peut pas se réinverser.
Ça veut dire que c'est aussi intéressant de donner de la visibilité sur cette antériorité et de se dire, nous, en fait, c'est pas nous les modernes, en fait. La modernité, elle était plutôt avant que les personnes qui sont venues d'Occident aient pu faire ce travail de nivellement, finalement, par le bas. Oui. On se rend compte qu'aujourd'hui, c'est un nivellement largement vers le bas.
Y a-t-il un recul des droits des personnes LGBTI+, lesbiennes, gays, bi, trans, intersexes? C'est le mois des fiertés, je le disais, un peu partout dans le monde. Et en France, il y aura la marche des fiertés ce samedi qui traversera Paris. Mes trois invités, Anaïs Perrin-Prével, que l'on vient d'entendre, directrice de l'association Outrance, Flora Bolter, co-directrice de l'Observatoire LGBTI+, à la Fondation Jean Jaurès, et Julia Torlé, présidente et porte-parole d'SOS Homophobie. Pour résumer finalement ce qu'on a un peu dit dans la première partie de ce débat, je vais citer la directrice exécutive de l'organisation internationale Ilga World, qui a dit « L'histoire nous a montré à maintes reprises que les progrès réalisés par nos mouvements dans le monde entier peuvent être renversés. »
Tout à fait.
Par une élection. Et j'en viens à l'aspect politique. Jusqu'où est-ce que cette question, elle est politique, Flora Bolter?
Pour moi, c'est une question profondément politique. Et c'est quelque chose qu'on a un peu oublié dans beaucoup de parties, parce que c'est aussi toute une façon de penser la société que Foucault a beaucoup développée et qui a été beaucoup développée dans les années 80 et par la suite, de ne pas voir les choses entièrement en termes d'économie et de possession des moyens de production. Mais pour le coup, il y a vraiment un combat sur beaucoup d'aspects, et ça en fait partie. Et les questions LGBTI+, vont de pair aussi avec les questions de droits des femmes, comme le soulignait tout à l'heure Julia Torlé. On voit la mise en danger, elle est par les mêmes groupes, sur les mêmes enjeux. C'est souvent, ça va de pair. Les groupes qui sont hostiles aux droits des personnes LGBTI+, sont en général des groupes qui avaient été formés ou qui ont parmi leurs combats la lutte contre l'IVG, la lutte contre les droits sexuels et reproductifs.
Et en général, ce sont les groupes populistes, des groupes d'extrême droite, pour ne pas les nommer ?
Alors oui, ce sont souvent des groupes alliés avec l'extrême droite. Et cette difficulté, c'est qu'on voit que malheureusement, il y a aussi une forme de contamination politique. Si je regarde l'exemple britannique, qui m'est proche, oui, mais sur l'exemple britannique, je trouve qu'on voit quelque chose d'assez clair, parce que vous avez parlé de l'ILGA. L'ILGA Europe publie un score de chaque État en matière d'égalité des droits sur les personnes LGBTI+. Et on voit que le Royaume-Uni a dégringolé, mais d'une manière phénoménale ces 10 dernières années. Depuis environ 2016. Il y a eu une dégringolade qui est vraiment notable, ce alors que le gouvernement qui a voté le mariage pour tous, c'était un gouvernement conservateur et qu'on disait que c'était plus un enjeu de distinction entre la gauche et la droite, etc. Et que donc c'était plus un enjeu politique et que c'était plus, et que c'était donc préservé du politique. Et pour le coup, on a vu une dégringolade, c'est-à-dire qu'on a vu une poussée de ces mouvements très conservateurs au sein du Parti conservateur qui a entraîné aussi un alignement, malheureusement, en divisant le mouvement féministe du Parti travailliste. Vous parliez tout à l'heure de l'élection qui aura lieu le 4 juillet. Elle devrait voir une victoire du Parti travailliste. Mais, par exemple, sur les questions de transidentité, le Parti travailliste s'est aligné sur une vision qui est puissamment problématique et qui va détricoter une partie d'accès à la santé, notamment des jeunes et des mineurs, et qui va ralentir et qui va rendre plus complexe la reconnaissance de l'état civil des personnes trans. Donc là, on voit qu'il y a eu une faiblesse, où il y a vraiment eu un recul très important, parce qu'il y avait un défaut de prise en compte dans à quel point est-ce que c'est politique, est-ce que c'est un enjeu qu'on veut défendre. Il y a eu un lâchage quelque part. Ouais. Et c'est pour ça qu'il est important que les politiques s'en saisissent, parce que pour l'instant, ce sont les groupes de droite qui saisissent les mobilisations très ultra-conservatrices réactionnaires, qui les intègrent bien, mais en face, on a un peu l'impression que ça prend moins bien et que c'est moins bien défendu.
Donc c'est une question politique.
Oui.
Est-ce que ça veut dire que le mouvement doit être politisé pour accélérer la défense des droits LGBTI+, et dans ce sens-là, il y a des législatives qui arrivent en France. Est-ce que, par exemple, il y aura des appels politiques lors de la marche des fiertés ce samedi à Paris?
Alors, je vais revenir un peu sur la politisation de base. C'est-à-dire que nos vies sont politiques de base, nos vies sont politiques et toute vie est politique. Les droits des femmes sont politiques parce que c'est une organisation de la société qui est particulière, parce que le fait de reconnaître que les femmes aient le droit de vote, déjà, si on prend cette base-là, c'est un élément central et qui repositionne complètement le pouvoir, le rapport de pouvoir qui peuvent exister. Donc, on est clairement politique. Nos existences en tant que personnes LGBTQIA+ sont aussi politiques. Le fait de pouvoir le vivre, de pouvoir exister dans une société où tout le monde ne va pas forcément être hétérosexuel ou cisgenre. Donc, tout ça, c'est extrêmement politique. La capacité qu'on peut avoir à vivre est extrêmement politique. La réaction aussi est politique. Je vais mettre une nuance, c'est que la réaction, elle est politisée. C'est-à-dire que nos vies sont politiques, mais la réaction est politisée. C'est-à-dire que la réaction, elle est organisée.
Le mouvement ne doit pas être politisé pour faire avancer les droits. C'est ma question.
En fait, le mouvement, il doit à un moment, il faut qu'il y ait des partis politiques qui puissent les prendre en compte. Ça. Mais on sait que ça ne durera pas si ça devient un clivage. Moi, j'ai pas envie qu'à partir du moment où il y a une alternance, quel que soit l'endroit dans le monde où ça se situe, les droits qui sont acquis reviennent à zéro complètement à chaque fois qu'il y a une alternance dans un sens ou dans l'autre. Donc, il faut qu'on soit transpartisan à un moment ou à un autre, parce que, et on le voit d'ailleurs en France avec les élus du Rassemblement national, c'est le groupe du Parlement sortant où il y a le plus de députés qui sont homosexuels. Donc, c'est le fait d'être homo n'est pas une garantie d'être progressiste ou de gauche. Et demain, peut-être que le fait d'être trans, ce qui jusqu'à présent est plutôt une revendication plutôt radicale, ne garantira pas non plus qu'on puisse se retrouver sur un camp progressiste et révolutionnaire. Donc, nos vies sont politiques et la politisation de nos vies doit. Il faut trouver cette limite-là pour faire attention à ce qu'elle ne soit pas une source de réaction, une source de backlash, une source de retour en arrière systématique à chaque fois que les choses se construisent.
Au-delà du politique, comment faire avancer les droits des personnes LGBTI+, puisque c'est la question qu'on pose ce soir. Flora Bolter, l'éducation est le nerf de la guerre, c'est vous qui l'avez dit.
C'est moi.
C'est Flora Bolter.
On va y arriver. Mais c'est moi qui l'ai dit parce que je le crois.
Voilà.
Très bien.
Non, oui, je suis assez convaincue que l'éducation est nerf de la guerre. Parce que en fait, il y a les avancées des droits. Donc là, on parle de la loi, mais on le disait tout à l'heure, il y a aussi l'avancée des mentalités. Et finalement, les choses marchent sur deux jambes. Les deux vont forcément de pair. Et oui, j'ai dit l'éducation est nerf de la guerre parce que je crois vraiment. Et c'est quelque chose finalement d'assez commun qu'on observe très facilement. Les incompréhensions, le rejet s'appuient souvent sur quelque chose qui relève un peu d'une peur, d'un rejet un peu primitif, un peu irrationnel. Et en fait, on a peur de ce qu'on ne comprend pas. Et puis, on s'agace assez vite de quelque chose qu'on ne comprend pas. Et donc, on le rejette très, très vite. Enfin, pour faire un parallèle un peu simpliste, mais néanmoins qui fonctionne, c'est comme quand on n'arrive pas à faire quelque chose, on finit par s'agacer et puis on finit par tout jeter. Bah, c'est un peu la même chose sur des grands sujets de société. Quand on ne les comprend pas, on finit par les rejeter en bloc.
Ce qui voudrait dire finalement... aussi que l'éducation est le nerf de la guerre, mais l'ignorance est la source de la haine.
C'est pour ça que je dis l'éducation est le nerf de la guerre, parce que si on passe par le biais de l'éducation, ça veut dire qu'on donne de l'information, on donne de la compréhension, et en fait aussi on dédiabolise beaucoup, parce que le rejet, la haine tiennent souvent sur le fait qu'on a tout plein d'idées reçues en tête, tout plein de préjugés qu'on ne questionne pas, parce que finalement si personne ne vient les questionner, on n'a strictement aucune raison de les remettre en question, ces préjugés-là. Et donc si à un moment donné on vient devant un public et qu'on dit bah voilà, en fait on va expliquer, on va juste dire les choses, juste dire ce dont on parle, dire de qui on parle quand on parle des personnes LGBTI+, on leur donne une humanité et en fait tout part de là. Et on le voit quand on fait des interventions de sensibilisation, que ce soit auprès des jeunes ou que ce soit auprès des adultes, il y a quelque chose qui relève de la barrière qui tombe en fait, de gens qui sont en face de nous et qui nous disent « Ah bah oui, en fait, donc on parle d'humain, quoi. On ne parle que de ça. » Donc c'est très simple. Mais oui, je suis profondément convaincue que ça passe par là.
Ben, on va terminer par ce mot simple, certes, mais en tout cas, ce message de votre part. Et je vais citer aussi la présidente de l'Inter-LGBT en charge de l'organisation de la Marche des Fiertés, samedi à Paris. Ça résume bien notre débat ce soir. L'objectif est de revendiquer de nouveaux droits, mais aussi s'assurer de ce qu'on a obtenu ne seront pas retirés.
C'est ça.
Merci beaucoup à vous trois. Flora Bolter, co-directrice de l'Observatoire LGBTI+ à la Fondation Jean Jaurès. Julia Torlé, présidente porte-parole de SOS Homophobie.
Merci.
Et merci beaucoup à vous, Anaïs Perrin-Prével, directrice de l'association Outrance.
Merci
beaucoup à Florence Ponce à la préparation de ce débat. Vous vouliez ajouter quelque chose, Julia Torlé? J'ai cru.
Non.
merci beaucoup à Florence Ponce à la préparation de ce débat, Hélène Avril à la réalisation, et merci à la documentation de RFI. Allez, coup d'œil à la pendule. Dans moins de deux minutes, ce sera le journal de 20h d'Anne Corpé, puis le décryptage. Et puis juste après, ce sera Afrique Soir, la première édition avec Zéphirin Quadio. Bonsoir Zéphirin.
Bonsoir Romain, bonsoir à toutes et à tous.
Au programme ce soir.
Le président kényan retire le projet de budget à l'origine des manifestations violemment réprimées par les forces de l'ordre. C'était hier. La répression de la contestation a fait au moins entre 22 et 23 morts. Les bilans diffèrent selon les organisations de défense des droits humains. Aujourd'hui, la Commission kényane des droits humains demande justement que les responsables rendent des comptes. Nous parlerons aussi de l'ancien patron de la police islamique de Tombouctou, Abdulaziz Al-Hassan, condamné, reconnu coupable de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale. Le verdict a été prononcé en fin de matinée aujourd'hui à La Haye. La peine sera connue ultérieurement. Et puis nous ferons un détour par Bangui, la capitale centrafricaine, ville la plus chère d'Afrique pour les travailleurs étrangers.
Eh bien, merci beaucoup et un beau programme qui sera détaillé dans 30 minutes sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute.